autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour nous réinterroger dans cette première semaine de rediffusion estivale sur le plus incroyable talent de l'espèce humaine, notre capacité d'apprentissage. Pourquoi et comment apprenons-nous si vite et bien mieux que les machines? Comment les récentes découvertes en neurosciences cognitives, en nous éclairant sur l'art et la manière dont notre cerveau apprend, peuvent-elles nous inspirer de nouvelles pistes pour mieux apprendre à apprendre, à l'école comme ailleurs? Voilà ce que nous nous étions demandé en septembre dernier avec le professeur en neurosciences Stanislas Dehaene du Collège de France, directeur de l'unité de neuroimagerie cognitive à Neurospin. Il venait juste d'être nommé à la tête du Conseil scientifique de l'éducation nationale et de publier « Apprendre !» Les talents du cerveau, le défi des machines. Tout un programme à réécouter autour de la question « Pourquoi notre cerveau apprend mieux que les machines ?» Bienvenue.
/285 divisé par 37 multiplié par 13 plus 156 divisé par 3.
Jean-Marc.
104.
Oui.
Ben oui.
Oui, je sais. Quand on n'est pas habitué, c'est assez impressionnant.
Mon UPC est un neuroprocesseur, un ordinateur à apprendre. Plus j'ai de contact avec les humains, et plus j'apprends.
La machine à apprendre, elle vient d'Amérique. Alors, qui va commencer ?
Qu'est-ce qu'on apprend à l'école aujourd'hui ?
Nous avons besoin de comprendre, pour comprendre le fonctionnement adulte, comment fonctionne un cerveau aussi petit et comment il peut apprendre des choses aussi fantastiques que sa langue maternelle, que des mathématiques, que de reconnaître les uns et les autres, quelque chose qu'il fait d'ailleurs souvent beaucoup mieux que le cerveau mature et complet de l'adulte.
Un tour d'histoire, ouais, 6 sur 10, ouais, écoute. Bon, c'est pas si mal, hein, le risque est maîtrisé, Louis, t'assures la moyenne, c'est bien.
Bon, par contre, entre nous, tu pourrais faire mieux quand même, hein.
Eh, hey, qu'est-ce que tu fais, là ?
Bah, je vais faire mon foot.
Non, tu vas faire tes devoirs, hein.
Exercice, mon petit Lucien, allez, exercice.
Allez,
exercice.
Bonjour Stanislas Dehaene.
Bonjour.
Merci de vous prêter à l'exercice et d'être en direct avec nous. Alors avant de vous laisser réagir ou pas à ce que vous venez d'entendre, qui est au cœur de votre dernier ouvrage, Apprendre, les talents du cerveau, le défi des machines, publié aux éditions Odile Jacob. Je rappelle, Stanislas Dehaene, que vous êtes un des plus éminents neuroscientifiques de l'Hexagone, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Vous dirigez l'unité de neuroimagerie cognitive au centre Neurospin du CEA et vous avez été récemment nommé par le ministre de l'Éducation nationale à la tête du Conseil scientifique de l'éducation. Vous avez envie de faire passer à l'école et même ailleurs hein, dans la société, Stanislas Dehaene, vos recherches et vos découvertes en sciences cognitives sur cet incroyable talent de notre cerveau humain, sa faculté d'apprentissage. Apprendre, ça pourrait être le propre de l'homme ou sa caractéristique ?
En tout cas, une manière particulière d'apprendre parce que, en fait, presque toutes les espèces animales disposent d'un minimum de facultés d'apprentissage. Même le nématode, ce petit ver qu'on étudie beaucoup en laboratoire, qui a un nombre très faible de neurones, quelques centaines de neurones, apprend. Mais nous apprenons de manière particulière, et nous apprenons d'une manière tellement efficace que ça nous a permis d'envahir littéralement tous les aspects de la planète. Nous n'avons plus de niche écologique. J'explique dans le livre que notre niche écologique, c'est l'apprentissage. C'est la capacité de découvrir partout dans le monde des régularités, scientifiques notamment, mais pas seulement, une compréhension de nous-mêmes également.
Et ça commence dès le plus jeune âge, le bébé, le tout petit d'homme, il est déjà capable d'apprendre, on l'a entendu un peu dans
non
ce mix.
Non seulement il en est capable, mais c'est même son talent principal, il est plus efficace dans ce domaine que les adultes. Il faut concevoir le cerveau du petit enfant comme un super ordinateur qui dépasse très largement tous les systèmes d'intelligence artificielle actuels. Et dans le domaine de l'apprentissage de la langue, par exemple, eh bien, il n'y a pas plus efficace qu'un enfant entre, disons, 0 et 3 ans.
Vous avez d'ailleurs travaillé hein, sur les neurones de la lecture, mais aussi sur notre capacité innée à calculer. On pourrait dire que nous sommes câblés pour apprendre.
Alors c'est intéressant la part de l'inné et la part de l'acquis. C'est toujours un débat évidemment, mais j'avais un ami qui disait dans le débat sur l'inné et l'acquis, on a sous-estimé les deux. Et il n'a pas tort. Il y a énormément d'inné dans le cerveau. On est en train de découvrir non seulement qu'il y a bien sûr ces algorithmes d'apprentissage qui sont donnés sur une base génétique, nous avons tous les mêmes, et ils sont particuliers liées à l'espèce humaine, mais nous avons aussi des connaissances, par exemple, sur des domaines spécifiques. Ce que c'est qu'un visage, ce que c'est qu'un objet, ce que c'est qu'une personne, un nombre, l'espace, la cartographie de l'espace, tout ceci, ce sont des circuits spécialisés qui sont présents dès la naissance dans le cerveau du petit enfant. Mais l'apprentissage va permettre de raffiner ces compétences précoces et de sélectionner parmi ces compétences précoces ou leur combinaison ce qui est le plus efficace pour représenter le monde extérieur. Pour vous donner un exemple, des expériences qui sont menées chez les enfants entre 0 et 12 mois de vie montrent que l'enfant naît avec une idée de ce que c'est qu'un objet, mais pas avec une idée de la gravité. Donc il ne sait pas au départ qu'un objet ne va pas tenir tout seul dans l'air. Et pour lui, c'est une découverte que les objets tombent. Et tout au long des premiers mois de vie, il va découvrir les propriétés qui font qu'un objet tombe ou ne tombe pas. Alors au départ, il croit qu'il suffit qu'il soit posé côte à côte avec un autre objet pour ne pas tomber. Et c'est seulement plus tard qu'il comprend que non, il faut qu'il soit posé au-dessus. Et encore plus, qu'il faut que le centre de gravité soit au bon endroit, sinon l'objet va tomber.
Il faut qu'il fasse son enquête, en
fait. Et tout ceci, hein, le fait, exactement, c'est plus qu'une enquête, c'est une vraie expérimentation scientifique. Et j'explique dans le livre à quel point le bébé est un petit scientifique en herbe qui mène ses expériences. Donc il a tout le matériel nécessaire dans sa tête pour formuler des hypothèses dans une sorte de langage de l'esprit et ensuite sélectionner ces hypothèses en expérimentant.
Et en voyant ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Ce que vous montrez aussi, d'ailleurs, vous démarrez votre ouvrage sur une question de la résilience, plus sur la terrible histoire d'un jeune garçon brésilien victime d'une balle perdue et qui lui-même est paralysé, aveugle, isolé et qui pourtant arrive à apprendre.
Pour moi, c'était une découverte vraiment bouleversante. La visite donc, d'un grand centre de rééducation au Brésil, on me dit, tu vas rencontrer ce garçon, il a reçu une balle à l'âge de 3 ans, et ça fait maintenant plus de 3 ans qu'il vit avec nous à l'hôpital, dans une chambre, il est tétraplégique, il est aveugle, il est trachéotomisé, donc il respire par un tube. Bref, je m'attends à trouver un gamin complètement cassé. Et je me souviens de m'être préparé dans le couloir, en me disant, qu'est-ce que je vais trouver? Et puis, j'arrive dans la chambre, et il y a là un jeune enfant, comme tous les autres enfants, évidemment coincé dans son lit, mais avec un langage extraordinaire. Il était en fait trilingue, parce que l'entourage avait découvert qu'il aimait raconter des histoires, qu'il aimait imaginer, et lui avait créé ses propres livres sur la base des histoires qu'il aimait se raconter à lui-même et qu'ensuite il imaginait. Ils lui ont donné des livres tactiles. Alors il avait encore un tout petit peu de sensibilité de la main droite, il pouvait toucher ses livres et on lui racontait ses histoires, lui-même racontait des histoires. Je suis rentré dans la chambre, il m'a immédiatement demandé comment on disait tel ou tel mot en français qu'il connaissait pas. Bref, un enfant absolument en plein de vie, de curiosité. Et le paradoxe pour le neuroscientifique, c'est le suivant. Si vraiment notre cerveau était soumis au monde extérieur, aux entrées du monde extérieur, il devrait converger vers des états complètement différents, suivant qu'il est aveugle, qu'il est tétraplégique. Or, ce n'est pas du tout le cas. Nous avons tous les mêmes idées. On montre, par exemple, dans le livre, je parle des mathématiciens aveugles. On peut devenir un grand mathématicien tout en étant aveugle. C'est extraordinaire, alors, y compris en géométrie.
Bon, ça veut dire qu'on peut arriver à visualiser sans voir, enfin dans notre cerveau.
Visualiser avec une vision aveugle, absolument. Ouais. Et les aveugles qui ont démontré des théorèmes de géométrie en 3 dimensions, voire en n dimensions. Donc pourquoi ? Ça veut dire que dans notre tête, nous avons en fait des hypothèses préformées qui sont les mêmes pour tous, qui nous sont données par notre génome et que nous appliquons au monde extérieur. Et sinon, on ne pourrait pas comprendre cette convergence vers un état stable commun à l'ensemble de l'humanité. Et ça veut dire aussi que nous avons beaucoup en commun. C'est quelque chose que nous découvrons avec nos outils d'intelligence artificielle et aussi surtout d'imagerie cérébrale.
Nous avons tous le même cerveau en tête, mais on n'en fait pas du tout la même chose. Alors, c'est
bien
un
sûr,
peu ça.
Alors bien sûr, l'environnement va jouer un rôle fondamental pour sélectionner ces hypothèses, voir lesquelles sont pertinentes ou pas, et pour bien sûr encourager l'enfant à aller explorer dans telle direction ou dans telle autre. C'est là que l'école va jouer un rôle crucial, celui d'enrichir l'environnement.
On va y venir à l'école autour de la question qu'est-ce qu'apprendre ? Évidemment, vu d'ailleurs, écoutez ce qu'en dit le philosophe gabonais Bonaventure Véhondo.
Apprendre, c'est d'abord observer, c'est comprendre, c'est repérer. Après, comment se crée cette magie ? Comment se crée cette faim ? Comment se crée cette volonté, cette envie ? Est-ce qu'il y a une sorte de magie, au sens d'événements non maîtrisés ? Ou est-ce que c'est, je dirais, un acte délibéré ? J'ose croire qu'il y a bien sûr une forte dimension de volonté, parce que quand on ne veut pas apprendre, ben on n'apprend pas. Mais en même temps, je me dis, voilà ce qui fait aussi la beauté de l'être humain, parce qu'il peut même apprendre quand il ne veut pas apprendre.
Que vous inspire cette réflexion du philosophe gabonais Bonaventure Buondo, Stanislas Dehaene?
C'est vrai, c'est bien démontré maintenant qu'on apprend beaucoup mieux lorsqu'on a envie d'apprendre. En fait, ce qu'on appelle la curiosité, c'est un aspect de cet algorithme que nous avons tous dans la tête, qui nous fait spontanément orienter notre attention vers des domaines, d'abord, que nous ne connaissons pas déjà, mais qui sont apprenables. Donc il y a une sorte de, on appelle ça une courbe en U inversée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas intéressé par les choses banales que vous connaissez déjà, que vous avez vues une fois.
Notre cerveau, il aime mieux la nouveauté.
Vous aimez la nouveauté, mais vous n'aimez pas n'importe quelle forme de nouveauté, vous n'allez pas non plus être attiré vers des choses qui sont tellement loin de vous que vous ne savez pas les apprendre. Donc la curiosité, c'est une orientation vers ce qui est apprenable. Et bien sûr, ça veut dire que je sais quelque chose, je me connais suffisamment moi-même pour savoir ce que je suis capable d'apprendre. Et malheureusement, la curiosité peut être découragée. Si un enfant, par exemple, au fil des mois, est persuadé que quoi qu'il fasse en mathématiques, il n'arrivera jamais à apprendre, parce qu'on lui dit tu es nul, tu as zéro, et puis il constate que par rapport à ses autres élèves, il est peut-être en retard, eh bien, il ne s'orientera plus jamais vers ce domaine-là. Il va perdre sa curiosité.
Vous mettez aussi en avant le rôle des émotions dans l'apprentissage, hein, Stanislas Dehaene,
ça, ça joue un rôle. Ou négatif,
voilà, oui. Je vois dans cette angoisse qu'on peut avoir parfois par rapport aux maths ou aux calculs.
Il faut comprendre que dans les sciences cognitives AQL, il n'y a plus d'opposition entre la cognition et les émotions. On considère qu'il y a un calcul des émotions. Les émotions sont des systèmes cérébraux qui ont évolué, chacune pour remplir une fonction bien précise. L'émotion de peur, par exemple, est un calcul de notre cerveau qui se déclenche lorsqu'il y a une situation de menace pour préparer notre corps et notre cerveau à réagir avec urgence. Voyez. Donc, toutes ces émotions sont des calculs rationnels de notre cerveau, mais qui peuvent aider ou au contraire inhiber l'apprentissage. L'anxiété, malheureusement, inhibe énormément les apprentissages. On le sait d'études très nombreuses chez l'homme et surtout chez l'animal. Et donc, le stress, l'anxiété sont à éviter absolument parce qu'ils vont bloquer la capacité d'apprendre.
Autour de la question pourquoi notre cerveau apprend mieux que les machines, on continue de s'interroger avec Anna Kova sur RFI, remix de Everybody Got to Learn Sometime. Je vais y arriver. Everybody Got to Learn Sometime sur RFI. Everybody got to learn sometime. Jolie reprise d'Anna Kova sur RFI, n'est-ce pas, Stanislas Dehaene?
Oui, bien sûr, et absolue vérité, parce que, en fait, j'ai écrit ce livre pour ça, parce que nous devons tous, à un moment ou à un autre, apprendre, adultes, jeunes, et nous n'avons jamais appris à apprendre. Et il y a des astuces, voilà. On a
alors il y a des astuces, mais justement pourquoi, puisqu'on vient de comprendre que nous sommes faits pour apprendre, que c'est notre talent humain, peut-être notre caractéristique même de notre espèce, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à apprendre à apprendre. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal finalement à enseigner? Est-ce que c'est une méconnaissance justement de tous ces mécanismes d'apprentissage?
On est dans une situation pré-scientifique. On a tous une intuition de la bonne manière d'apprendre, mais elle n'est pas toujours juste. Et certaines expériences montrent qu'on n'a pas toujours la bonne introspection sur ce qui va marcher ou ne pas marcher.
Par exemple,
on confond les compartiments de mémoire, par exemple. Donc, on lit un document et comme il est dans notre mémoire de travail, c'est la mémoire à court terme, eh bien, on a l'impression de le savoir. On ne se rend pas compte que ce qui déterminera si on le sait dans deux jours, c'est pas du tout ce compartiment de mémoire-là, c'est le compartiment de mémoire à plus long terme qui dépend d'autres manières de travailler. Et il ne faut pas donc juste lire, même plusieurs fois, le cours, il faut aussi se mettre à l'épreuve avec un délai, et avec un délai qui est croissant pour retenir à des délais temporels de plus en plus éloignés. Donc, étudier, se tester.
Alors ça, c'est un des quatre piliers, on peut dire, de l'éducation, puisque vous les citez dans cet
ouvrage. Oui, j'essaie de lister un certain nombre de ce que j'appelle les piliers de l'apprentissage.
Les piliers de l'apprentissage, vous avez parlé de la curiosité, l'appétence, de la curiosité. Vous venez de parler du temps, enfin, qu'il faut laisser.
Oui, puis du retour sur erreur, c'est-à-dire le fait
le retour sur erreur.
Alors le retour sur erreur, ça c'est très important. D'ailleurs, toutes les machines actuelles d'intelligence artificielle qui apprennent fonctionnent sur ce principe. Elles tentent une réponse et on leur explique exactement à quel endroit de la sortie elles se sont trompées, ou bien à quel point elles sont loin de la bonne réponse.
De l'intérêt de l'erreur.
Mais c'est la même chose pour nous, donc il n'y a pas d'apprentissage sans avoir une erreur ou au moins une incertitude qui est comblée par l'environnement, l'enseignant qui vous dit exactement ce qui n'allait pas. Et notre cerveau fonctionne comme ça, il génère des anticipations et il regarde si cette anticipation colle avec le monde extérieur et la différence, qu'on appelle l'erreur de prédiction, ce qui reste inexpliqué, va être renvoyé dans toutes nos aires cérébrales comme une espèce de message qui remonte et qui va corriger nos modèles internes. Donc il faut faire des erreurs pour apprendre.
Il faut faire des erreurs pour apprendre, c'est quelque chose que l'école ou les enseignants ont peut-être un peu oublié ou ne savait pas. C'est peut-être aussi ce qui a suscité une certaine petite vague d'hostilité à votre nomination à la direction du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Les enseignants ont eu quoi? Un peu peur des neurosciences, qu'on vienne leur dire comment faire ou...
Je pense qu'il y a une mécompréhension aussi du domaine qui est pertinent. C'est pas tellement les neurosciences. Vous avez d'ailleurs ma chaire au Collège de France, c'est une chaire de psychologie cognitive. Et les neurosciences viennent un petit peu en bout de route pour fournir les mécanismes. Mais un enseignant n'a pas forcément besoin de connaître les mécanismes, il n'a pas forcément besoin de savoir où ça se passe dans le cerveau. Par contre, il a besoin de comprendre les grands principes.
Donc curiosité, l'algorithme, voilà. L'erreur.
Alors l'attention, ça c'est fondamental, je l'ai mis en premier, c'est mon premier pilier de l'apprentissage. L'enseignant détermine à quoi les enfants vont faire attention. Et ceci, à son tour, détermine ce que les enfants sont capables d'apprendre ou pas. Si on ne fait pas attention, on peut être aveugle au monde extérieur.
De l'importance de l'attention, surtout aujourd'hui, nous sommes sollicités par beaucoup de choses qui captent notre attention. Je propose un nouvel éclairage, celui justement du professeur Jean-Philippe Lachaud, neuroscientifique spécialiste de l'attention, qui lui aussi a commencé à collaborer avec des enseignants pour introduire à l'école ce programme d'amélioration de l'attention. Extrait tout de suite d'un reportage où l'on retrouve donc Jean-Philippe Lachaud à l'école, sur le fil, plus exactement sur la métaphore de la poutre.
Donc je monte sur la poutre, moi. Ok. Donc quand je suis sur la poutre, dès que je suis en train de tomber, tout de suite je m'en rends compte et tout de suite je me remets dessus. Et bien l'attention c'est pareil. Si vous vous laissez distraire, hop, tout d'un coup il y a un son. Et il faut remarquer tout de suite que vous êtes en train de vous laisser distraire et c'est à ce moment-là que c'est facile de se reconcentrer.
Depuis le mois de septembre, à Lyon, 25 classes, un millier d'enfants apprennent ainsi l'équilibre attentionnel. Autrement dit, à rester concentré et attentif.
Qu'est-ce qui, vous, dans la journée, a tendance à beaucoup vous déconcentrer?
Moi, en fait, c'est quand, par exemple, quelque chose tombe par terre, en fait, j'ai envie de regarder, alors après...
Un objet qui tombe par terre.
En fait, moi, quand je travaille, je pense à ce que je vais faire le week-end, parce que souvent, je pars, et du coup, ça me distrait.
L'objectif étant de prendre conscience de ces forces qui sont à l'origine des sources de distraction. Et une fois que cette prise de conscience est là, eh bien de pouvoir les compenser, les maîtriser au maximum pour être le plus concentré possible sur une période de plus en plus longue finalement.
Je te laisse te reconcentrer là.
l'attention, comment rester concentré, véritable sujet de société aujourd'hui. Mais évidemment, ça commence à l'école, Stanislas.
Oui, c'est un grand sujet de recherche. Bon, là, il faut être prudent parce que l'expérimentation en cours avec Jean-Philippe Lachaud n'est pas encore terminée. On n'a pas les résultats, mais il y a eu beaucoup d'expériences par le passé. Ça a commencé d'ailleurs en Oregon où je faisais mon post-doctorat avec mon maître
aux États-Unis.
Michael Posner, l'un de mes maîtres, qui avait montré effectivement que les enfants peuvent bénéficier d'un entraînement attentionnel. C'est-à-dire que le système de l'attention, comme n'importe quel autre circuit cérébral, peut s'entraîner. Et on peut apprendre à se concentrer, à éviter la distraction. Et lorsqu'on le fait à un très jeune âge, on voit, dans une certaine mesure, une généralisation à d'autres domaines. Parce que c'est un système isotrope, il sert à tout, finalement. Donc, des expériences ensuite ont montré, par exemple, qu'apprendre à faire de la musique, à jouer d'un instrument de musique, ça pouvait être une manière de concentrer son attention. Apprendre à jouer d'un jeu vidéo, dans lequel il y a un objet sur lequel vous concentrez, puis il y a beaucoup d'autres autour sur l'écran auxquels il ne faut pas faire attention. Il y a des jeux très spécifiques, comme ça, qui
développent l'attention. Il y a des astuces, les jeux vidéo ne sont pas forcément négatifs. Il y a des astuces, en tout cas, pour mieux apprendre.
Alors, c'est l'une des astuces. Et on dit, concentrez-vous pleinement sur ce que vous souhaitez apprendre. Ça veut dire aussi identifier clairement le but de l'apprentissage. Souvent, dans les exercices qu'on donne aux enfants, le but n'est pas clairement identifié. Par exemple, c'est un exercice de mathématiques, mais on va demander à l'enfant de recopier la question. Pour certains enfants, recopier la question, c'est un tout autre exercice, très difficile, parce qu'ils sont dyspraxiques, ils ont du mal à faire le geste d'écriture, ou parce que la langue française leur pose des problèmes. Donc si on veut faire des maths, ben, faisons des maths. Mais à ce moment-là, éliminons toutes les autres formes de distraction.
Alors parmi les, c'est pas les astuces, hein, mais les conseils, ou les piliers en tout cas, de l'apprentissage, vous parlez de la consolidation, et vous insistez beaucoup sur l'importance du sommeil, Stanislas Dehaene, pour apprendre.
Oui, alors c'est fondamental. On ne peut pas se contenter d'un apprentissage superficiel. Si on veut aller plus loin, il faut que chaque pas de l'apprentissage serve de pilier au suivant, et donc qu'il soit automatisé. Tant que l'information n'est pas automatisée, elle occupe notre espace de travail central, conscient, et cet espace ne peut pas servir à autre chose, on ne peut pas faire attention à deux choses en même temps. Donc si vous avez des difficultés en lecture, par exemple, eh bien vous n'arrivez pas à vous concentrer sur un problème de maths. Dans le livre d'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis un petit problème de mathématiques, mais écrit dans une langue telle, avec des fautes d'orthographe, de sorte que ça vous distrait totalement.
Et on n'arrive absolument pas, même pas à comprendre l'énoncé du problème.
On ne comprend pas l'énoncé, on n'arrive pas à résoudre les problèmes de maths. Alors, c'est une sorte de simulation de ce qui peut se passer chez des enfants qui n'ont pas consolidé la lecture. Alors oui, le sommeil, c'est un pilier absolument essentiel de cette consolidation. Ça, c'est quand même une des très grandes découvertes des neurosciences. On a longtemps... Bon, on savait que le cerveau travaillait pendant le sommeil, qu'il n'est pas inactif, mais enfin, on pensait qu'il soit nettoyé, qu'il se reposait, en quelque sorte. Et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Le sommeil est une partie intégrante de l'algorithme d'apprentissage de notre cerveau. Pendant le sommeil, notre cerveau rejoue et en quelque sorte intègre les apprentissages de la journée. Et donc il y a des expériences magnifiques où l'enfant ou l'adulte d'ailleurs s'endort en ayant atteint un certain niveau d'apprentissage, dort dessus et le lendemain matin a fait des découvertes, est allé plus loin, son score est meilleur dans toutes sortes de jeux, vidéo ou pas. Alors on a l'impression et on dit il n'a rien fait, il a juste dormi. Mais il n'a pas rien fait du tout. Le cerveau a répété parfois plusieurs centaines de fois dans le sommeil les informations de la veille. On le voit maintenant au niveau neuronal, les neurones déchargent pendant le sommeil de façon extrêmement structurée et peut-être 100 fois de suite vont avoir une décharge qu'on appelle replay, rejouer les décharges de la veille 20 fois plus rapidement. Et ce phénomène-là est 3 fois plus fort chez l'enfant que chez l'adulte. Il faut absolument que les enfants puissent dormir.
Donc ça, c'est vraiment un des messages de Stanislas Dehaene et des neurosciences. Vous citez donc ces 4 piliers d'éducation, on les rappelle, hein, l'attention, l'engagement ou la curiosité, le retour sur l'erreur et la consolidation à travers le sommeil. Vous citez aussi les 3 façons dont l'école peut tuer la curiosité. L'école, elle tue un peu la curiosité. Aujourd'hui encore
ou... Je le crains en tout cas. J'appelle des recherches dans cette direction-là parce que je pense que nous ne savons pas encore très bien au niveau cérébral et même au niveau psychologique ce qu'est la curiosité. Mais effectivement, le peu qu'on sait, c'est que la curiosité est comme une sorte d'émotion supplémentaire qui se rajoute au circuit de la dopamine, au circuit de la récompense dans le cerveau. Donc tous les animaux, depuis maintenant des dizaines de millions d'années, ont un circuit qui nous donne des récompenses matérielles, qui nous attire vers la nourriture, nourriture, vers la boisson, vers le sexe, en fonction de nos besoins à un instant donné. Mais chez l'homme, il y a cette émotion supplémentaire qui est l'envie d'apprendre. Et on le voit d'ailleurs, les gens sont prêts à dépenser de l'argent, voir s'ils sont passionnés à s'arrêter de manger pendant quelques heures ou une journée entière, parce qu'ils sont passionnés par un sujet donné qu'ils sont en train d'apprendre. Donc c'est une émotion qui s'est greffée, et ça veut dire qu'elle est aussi en compétition avec les autres. Si vous recevez des punitions à chaque fois que vous levez le doigt, que vous parlez trop fort, vous êtes trop imaginatif dans une classe, bien sûr, ça va tuer votre curiosité. L'un va être en conflit avec l'autre.
D'où l'intérêt donc de comprendre. Et vous dites d'ailleurs que, on dit que nous sommes des homo sapiens. Pour vous, plus que des sages ou des sachants, nous serions des apprenants ou des enseignants.
Hein. Homo docens, c'est le mot que j'utilise. Vous savez que la devise du Collège de France, c'est docet omnia, il enseigne tout. Donc nous sommes des hommes qui enseignent, nous sommes des hommes qui apprennent. Alors il y a quelque chose à expliquer, c'est cette singularité de l'espèce humaine. Il y a vraiment quelque chose d'unique à notre cerveau. Je pense que ça
autour de cet apprentissage, oui, de cette appétence pour l'apprentissage.
Vous savez, il y a des expériences, je cite dans le livre, qui ont consisté à adopter un petit chimpanzé dans une famille, comme, en le traitant comme un enfant, et il n'apprend pas du tout la même chose que les autres enfants, bien entendu. Il ne découvre pas la manière de jouer avec des jeux comme le Lego, par exemple, mais il n'apprend pas non plus le langage. Il n'a pas l'air de formuler les hypothèses dans une sorte de langage de l'esprit. Cette question du langage dans le cerveau, à mon avis, est au cœur du sujet. Et c'est aussi un problème pour les réseaux de neurones en intelligence artificielle actuellement. Ils ont des performances quand même très impressionnante, mais ils n'ont pas cette capacité de formuler explicitement ce qu'ils ont compris. Nous savons ce que nous savons, nous le formulons dans une sorte de langage qui nous permet aussi de le transférer à d'autres.
Nous savons ce que nous savons, et ça nous fait plaisir de le savoir ou de l'apprendre en plus.
Oui, bien sûr, et ça nous fait plaisir de le transmettre à d'autres. Cet aspect de transmission sociale, toujours par le biais du langage, est fondamental. Donc nous apprenons en société, toute la société monte ensemble.
Autour de la question pourquoi et comment apprendre à apprendre avec Alexis HK sur RFI.
On peut apprendre aux chimpanzés la langue des sourds-muets, entraîner un bourrin à gagner le quintet. On peut apprendre à l'éléphant à se dresser sur ses pattes, apprendre aux chiens savants à jouer les acrobates. Mais on n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver tant qu'on remet de l'or dans son écuelle d'acier. On n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver. On peut apprendre à un taxi à devenir aimable. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est faisable. On peut apprendre à un taulier qui nous sert le pastis à ne pas dire il faut que j'encaisse, j'ai fini mon service. On peut apprendre le respect en se prenant des baffes, des claquades, des taquets, des steaks de doigts dans la face. On peut apprendre l'amour comme une règle d'or pour pardonner les vivants et les morts. On peut apprendre la vertu à toutes les salaces, partager une laitue au lieu de faire des trucs dégueulasses. On peut apprendre à une nonne contre tous ses principes qu'on n'a jamais tué personne en fumant une pipe. Mais on n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver tant qu'on remet de l'or dans son écuelle d'acier. On n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver.
On peut apprendre ou pas avec Alexis HK sur RFI. Autour de la question pourquoi notre cerveau humain apprend mieux que les machines, en compagnie du professeur Stanislas Dehaene, l'un de nos plus éminents neuroscientifiques, qui vient de publier « Apprendre !» Les talents du cerveau, le défi des machines. Un vrai défi, on commence à le comprendre, que d'apprendre à apprendre aux machines, d'insuffler ce qu'on appelle l'intelligence artificielle dans nos ordinateurs. Et comme le rappelle l'un de vos collègues au Collège de France, le professeur Gérard Berry, éminent chercheur en informatique, les ordinateurs sont stupides.
Oui, parce qu'un ordinateur est une machine extraordinairement simple, qui fait très peu de choses, qui prend une donnée la meilleure, qui fait une addition, et puis qui exécute des instructions. L'important de l'informatique, c'est que les instructions sont à l'intérieur. C'est pas nous qui tournons la manivelle, c'est l'ordinateur qui tourne la manivelle tout seul. Et cette machine est, je disais, complètement stupide, c'est-à-dire elle ne fait que des choses extrêmement simples sans jamais se tromper. Et c'est très difficile de lui parler, puisque c'est l'inverse exact d'un homme, c'est l'inverse exact d'un enfant. On n'est pas forcément compliqué, mais on est très riche de langage, de compréhension, on a énormément de choses dans la tête, on a un cerveau qui est fantastiquement plus riche qu'un ordinateur, et simplement on est lent et on fait beaucoup d'erreurs.
Et c'est précisément pour ces raisons-là, Stanislas Dehaene, j'imagine, que nous avons ce formidable talent d'apprentissage. Vous voulez réagir à ce que vient de dire Gérard Berry ?
Oui, parce que je pense qu'il connaît très bien ce domaine, évidemment, mais le domaine ne cesse de progresser aussi. Et les machines à apprendre actuelles sont quand même assez impressionnantes. Quand vous savez, une machine a appris au jeu de Go, a joué au jeu de Go récemment, ce jour-là,
et a battu le champion,
elle a battu le champion du monde en titre, et actuellement, non seulement elle bat les meilleurs joueurs humains, mais la dernière machine à jouer au jeu de Go, elle a appris à partir de zéro en jouant uniquement contre elle-même, et au bout de quelques heures déjà, elle dépassait le meilleur joueur humain. Et ensuite, la courbe continue, et elle a appris pendant quelques jours, elle atteint un niveau qui n'a jamais été atteint pendant vraiment plusieurs centaines, voire un millier d'années d'analyse du jeu de Go par des joueurs professionnels. Donc, elle a récapitulé en quelques heures toute l'histoire de l'humanité. Alors, cela dit, c'est pas suffisant, et ça n'est pas encore une machine qui s'approche des performances extraordinaires de notre cerveau.
Donc pour le moment, notre cerveau apprend bien mieux, bien plus vite, de manière bien plus large.
Surtout
que
de façon plus large, voilà. D'une façon qui n'est pas aussi finement spécialisée sur un domaine particulier. Vous voyez, la machine qui a appris à jouer au jeu de Go, elle a appris à jouer au jeu de Go sur un Goban 19 par 19. Si on la met sur un Goban 15 par 15, elle est perdue. Ce n'est pas le cas des humains, qui peuvent généraliser leurs apprentissages, et bien au-delà, bien sûr. Nous avons un cerveau qui nous permet d'apprendre tous ces domaines très différents. Alors ça, on ne sait pas encore bien limiter. L'autre chose qu'on ne sait pas bien limiter aussi, c'est l'économie dans la donnée. Ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'un petit enfant a besoin de très très peu de données pour apprendre. Par exemple, dans l'apprentissage des mots, il entend un mot une fois, deux fois, trois fois, et ça y est, il a déjà isolé, cerné à peu près ce que ça veut dire. Une machine, dans l'état actuel des choses en tout cas, a besoin de plusieurs centaines, milliers, voire millions d'essais d'apprentissage pour atteindre les mêmes performances.
Vous êtes quand même, et vous me l'avez dit hors antenne, fasciné par ces machines capables de battre un champion du monde du jeu de Go. C'est-à-dire qu'on est en train d'avancer dans un monde, science ou science-fiction, où bientôt... les machines sauront apprendre aussi bien, j'ai envie de dire, que notre cerveau humain.
Moi, je pense que c'est une possibilité très réelle pour, disons, les prochaines décennies. Hein. J'ai écrit ce livre en partie pour qu'on voit mieux ce qui manque, c'est-à-dire les performances extraordinaires de l'espèce humaine.
Qu'est-ce qui manque à l'intelligence artificielle ? Voilà. Qu'est-ce qui manque à nos machines ?
Exactement. Et bon, pour prendre un exemple, celui de l'attention dont on parlait tout à l'heure, jusqu'à très récemment, les réseaux de neurones n'avaient pas d'attention. Ils avaient une énorme image en entrée, un énorme jeu de sortie, et ils essayaient d'apprendre toutes les correspondances possibles. Maintenant, depuis quelques années seulement, on a rajouté un système qui est capable d'apprendre à faire attention, qui ressemble beaucoup à l'attention humaine, et donc les machines font maintenant attention.
Ce qui veut dire que plus on comprend comment marche notre extraordinaire machine ou cerveau humain, et plus on arrivera à l'insuffler dans les
exactement.
Machines.
Exactement, on peut retourner la chose aussi. Comprendre le cerveau, comprendre profondément, ça veut dire le comprendre à un tel point qu'on est capable de l'imiter. C'est cela vraiment, la compréhension, la connaissance scientifique. On n'en est pas encore tout à fait là, mais on s'en approche. Et je dis, il n'y a pas d'objection de principe. Pour moi, le cerveau est une sorte de machine biologique. Simplement, quand
une machine
on
biologique avec des émotions et avec un tas de paramètres...
Mais ça aussi, ça fait partie de la machine, en quelque sorte. Et dans cette comparaison, je pense qu'on élève la machine. On n'est pas en train de diminuer le cerveau. Au contraire, on admire mieux le cerveau. Et moi, j'admire énormément le cerveau de ma petite fille, Aurore.
Qui
le livre est dédié, qui est née il y a quelques mois. Même si je sais que c'est une sorte de fantastique machine. Je vois que la machine est élevée et qu'on va voir arriver des machines absolument fantastiques pour nous aider.
Vous nous avez mis en tout cas sur la piste d'un robot justement qui pourrait être capable d'apprendre et de s'adapter au meilleur comme au pire. Science ou science-fiction, extrait du film de science-fiction Chappie, film policier américain de Neil Blomkamp qui se passe dans un futur proche à Johannesburg.
Tu es Chappie.
Chappie.
C'est comme un enfant, il doit apprendre. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie.
Chappie veut peindre.
Wow.
Non, je rêve.
Chappie ou l'apprentissage d'un robot policier, on ne va pas raconter l'histoire du film, mais pourquoi avoir choisi cet extrait, Stanislas Devane ?
Parce qu'à un moment, dans l'hypothèse du film, c'est qu'il y a effectivement un cerveau électronique, mais capable d'apprendre un peu comme nous le faisons, par essai-erreur très vite. Et sans raconter le film, effectivement, ce cerveau, s'il est mis dans le mauvais environnement, s'il se retrouve entouré de bandits avec un vocabulaire assez restreint, il apprend finalement ce qu'il y a autour de lui. Donc ça pose la question de la manière de préparer un environnement autour de nos enfants et un environnement scolaire notamment pour que le cerveau humain qui a un potentiel extraordinaire, le même chez tous, puisse s'épanouir du mieux possible. Et pour moi, ça passe par un enrichissement systématique de l'environnement des enfants, tous les jours.
Un enrichissement systématique, parce que vous dites on est tous capables d'apprendre, on a tous envie d'apprendre, et au départ, en gros, un cerveau humain...
Grosso modo, on a tous le même cerveau. On le voit d'ailleurs par l'imagerie cérébrale à Neurospin, on scanne des enfants dès la naissance, on voit tous les grands faisceaux de connexion qui sont en place. Et certains peuvent être plus ou moins gros suivant les personnes, et ça va effectivement avoir un petit peu d'impact sur les apprentissages. Mais par exemple, lorsqu'on apprend à lire ou lorsqu'on apprend des mathématiques, on utilise tous le même circuit cérébral. Et on passe tous aussi par les mêmes étapes d'apprentissage. On va aller plus ou moins vite, évidemment. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir des styles d'apprentissage différents et des méthodes
selon d'apprentissage. Selon qu'on est dans des quartiers difficiles.
Exactement.
Ou selon qu'on est dans d'autres régions du monde.
Il peut y avoir des motivations différentes à apprendre ou des envies différentes. Mmh. Mais,
qui sont intéressantes à connaître pour les enseignants.
Bien sûr, et à utiliser. Mais il y a un mythe dans le domaine éducatif qui est cette idée que chaque enfant a un style d'apprentissage qui lui est propre. Qu'il y a des enfants visuels et d'autres auditifs et qu'il faudrait s'adapter à ce style d'apprentissage. C'est faux. Et on sait maintenant que, grosso modo, on peut utiliser des méthodes. Les mêmes méthodes vont être efficaces chez tous les enfants.
Les mêmes méthodes, mais en même temps, on sait bien que chacun, c'est très subjectif par rapport à notre histoire. Comment aussi faire les mêmes méthodes, mais qui soient applicables à chacun, parce qu'on est tous pareils et tous différents, et
donc,
je pense.
Il faut surtout pouvoir proposer aux enfants des exercices qui soient à leur niveau. Donc, je nie absolument pas l'existence de différences entre les enfants dans le niveau qu'ils ont atteint dans tel ou tel domaine. Et ils peuvent être en avance en mathématiques et moins en avance dans une autre dimension. Donc la pédagogie va essayer de mesurer précisément où en est un enfant. Moi, je dis toujours, l'enseignant doit être comme une sorte de Sherlock Holmes. Il doit essayer de cerner pourquoi l'enfant a une difficulté particulière, de quoi il a besoin à ce moment précis, et lui proposer la stimulation précise dont il a besoin.
Vous citez d'ailleurs l'Émile de Rousseau, alors je ne sais plus, en exergue de votre livre, commencez donc par étudier vos élèves, car très assurément vous ne les connaissez point. C'est quand même cela qui devrait être à la base du métier d'enseignant, la connaissance.
Oui, alors je milite aussi pour que ces connaissances que j'ai résumées dans le livre Apprendre servent de plateforme, parmi d'autres, à la formation des enseignants. Aujourd'hui, la formation des enseignants est extrêmement limitée, dans le temps aussi d'ailleurs, elle est très courte, et elle n'aborde pas ces grands principes de l'apprentissage. Et moi, je pense qu'il y a là un corpus absolument merveilleux de connaissances, très utile, très applicable, déclinable. C'est ce que j'essaie d'expliquer aussi, c'est que ce sont des grands principes. Donc ça ne donne pas une méthode d'apprentissage derrière.
Et ça n'est pas réducteur, ça ne réduit pas...
Il y a encore un énorme espace de créativité pour les enseignants à l'intérieur de ces grands principes. Donc je fais la distinction entre les principes qui sont scientifiques et les méthodes qui sont la déclinaison dans l'éducation nationale.
Autour de la question comment réconcilier finalement neurosciences et éducation, comment apprendre à apprendre, petit clin d'œil à Francis Bébé sur RFI, si les Gaulois avaient su.
À l'école, ce jour-là, notre maître avait passé la matinée à nous raconter un épisode fort intéressant de la vie de nos ancêtres les Gaulois. Un régal. La tribu des Gaulois, dirigée par Vercingétorix, vivait dans la plaine. Quelques kilomètres plus loin, c'était le village des Romains. Son chef César possédait une longue vue magique qui lui permettait de voir le monde entier. Herveus l'ambitieux, croyant que c'était une caméra de télévision, se posa devant pour être vu. Écarte-toi de là, imbécile! Lui cria César qui scrutait l'horizon. Je veux savoir si ces sacrés Gaulois sont toujours là. Si les Gaulois avaient su, ils ne seraient pas restés dans la plaine. Si nos ancêtres, les blancs Gaulois, avaient été malins comme nous. César regarde dans la lunette et qu'est-ce qu'il voit? Là-bas, dans le lointain, Vercingétorix et ses hommes tiennent une palabre tribale. Les Gaulois sont toujours dans la plaine, dit César en souriant. C'est aujourd'hui que nous allons les capturer. Et toute la tribu romaine d'acquiescer. Oui César, ave César. C'est la foule qui crie sa joie. Les Gaulois ne savent pas que César les voit dans sa longue vue magique. Tout doucement, ils continuent de fomenter leur petit complot contre les Romains. Voyant le danger qui les guette, et emporté par le récit de notre maître, moi je crie aux Gaulois. Bon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez à rester dans la plaine? Sauvez-vous, sauvez-vous tout de suite, sinon les Romains vont vous attraper. J'ai crié si fort que notre maître m'a puni pour bavardage intempestif pendant sa leçon. Tant pis, car moi je continue toujours de penser que si les Gaulois avaient su, ils ne seraient pas restés dans la plaine. Si nos ancêtres, les bons Gaulois, avaient été malins comme nous, ils auraient loué un avion. Avec la carte bleue, c'est facile. Ce serait taillé en Afrique. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Caché dans la forêt de Tarzan, chiche que César les aurait pas vus.
Le regretté Francis Bébé sur RFI. Si les Gaulois avaient su comment fonctionne vraiment notre cerveau et son incroyable talent d'apprentissage que nous découvrons avec notre invité, le neuroscientifique Stanislas Dehaene, autour de la question pourquoi notre cerveau apprend mieux que les machines, pour le moment en tout cas. Nouvel éclairage à rebrousse-poil du chercheur en informatique Roberto Di Cosmo, initiateur d'une extraordinaire bibliothèque universelle des logiciels, qui se demande si on ne devrait pas inverser la question. Vous allez lui répondre, Stanislas.
Ah, j'ai une question qui m'est taraude. Donc, j'ai vu certains travaux récents dans l'apprentissage automatique dans lesquels, pour faire apprendre mieux les machines, consiste à faire passer plus de temps à l'apprentissage automatique là où l'algorithme d'apprentissage progresse et moins de temps là où l'algorithme ne progresse pas. Donc là, on se pourrait quand même poser la question. C'est, ça a l'air d'être très naturel pour les enfants aussi. On a la sensation que les enfants, ils apprennent plus quand ils voient qu'ils progressent. Et par contre, ils s'ennuient quand ils voient qu'ils passent du temps sur quelque chose sans avoir des progrès réels. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces notions qu'on a prouvées dans les mondes de l'apprentissage automatique et les transférer sous la façon que nous avons aujourd'hui d'enseigner, d'éduquer nos propres enfants?
Pouvez-vous répondre, Stanislas Dehaene?
On a parlé tout à l'heure de la curiosité, c'est exactement ça. On s'ennuie lorsqu'on a déjà tout appris, on s'ennuie également lorsqu'on n'arrive pas à apprendre dans un domaine trop compliqué. Donc il faut piquer la curiosité des enfants avec des stimulations, mais qui leur paraissent apprenables. Et c'est tout l'enjeu du cursus scolaire, d'arriver à proposer au bon moment des stimulations qui vont vraiment réussir à susciter l'intérêt de l'enfant. Maintenant, l'ennui, c'est pas forcément non plus quelque chose d'indésirable. Ce qui est tout à fait particulier à notre cerveau, c'est qu'il projette en permanence des hypothèses sur le monde extérieur. Il n'est pas comme ces réseaux de neurones actuels qui attendent les entrées et qui crachent une sortie. Non, lui, il fonctionne sur un mode projectif. Donc, un enfant, si vous regardez les tout-petits-enfants en particulier, c'est extraordinaire à quel point ils ne s'ennuient pas. Ils peuvent être devant leur chaise, par exemple, et ils vont toutes les 10 secondes explorer un aspect différent de ce qui nous paraît une chaise très banale. Ils vont en permanence essayer des choses différentes. Est-ce qu'il y a un écrou ici? Ah tiens, il y a une tache là. Qu'est-ce qui se passe s'il fait tomber tel objet? Et c'est cette diversité, ce style projectif, suivi de sélection, évidemment, chaque hypothèse est sélectionné, retenu, ou au contraire éliminé en fonction de son adéquation pour le monde extérieur, qui rend cette machine capable de résister à l'ennui quelque part.
Alors cette machine, c'est notre cerveau. Vous vous dites qu'on peut s'inspirer des talents du cerveau pour concevoir de l'intelligence artificielle. On peut aussi s'inspirer de ce qu'on découvre en intelligence artificielle, en apprentissage profond, pour l'intégrer dans l'apprentissage à l'école, dans l'éducation. Ça va dans les deux sens.
Je crois que ça va dans les deux sens. D'abord, l'intelligence artificielle commence à nous fournir des modèles assez raisonnables du monde extérieur. Et dans le livre, d'ailleurs, je décris des algorithmes qui n'ont pas grand-chose à voir avec ces réseaux de neurones conventionnels, mais qui sont plutôt des algorithmes qu'on appelle bayésiens, c'est-à-dire qui font des statistiques et qui arrivent à extraire le maximum d'informations d'une donnée. Donc, ils sont beaucoup plus efficaces que les algorithmes, disons, des réseaux
de neurones
conventionnels.
Et notre cerveau, enfin, le cerveau d'un bébé, il passe son temps à faire des statistiques.
Exactement.
Enfin...
Et ça conduit à tout un axe de recherche extrêmement intéressant pour montrer qu'effectivement, le bébé est un bébé statisticien. Il est déjà capable de compiler des nombres, des résultats, des probabilités, et il s'en sert pour apprendre.
Alors, le bébé est un statisticien, ça, vous l'avez écrit aussi dans un autre livre, hein, sur le...
J'ai fait mon cours là-dessus, au Collège de France.
Votre cours là-dessus, au Collège de France. Est-ce qu'on... Vous n'allez pas parfois un peu vite quand vous passez d'expérience en laboratoire jusqu'à la classe? Comment est-ce qu'on fait justement ok, le bébé est un statisticien et ça c'est prouvé. Mais en même temps, comment est-ce qu'à l'école ensuite, les jeunes enfants, on leur fait passer ce que vous découvrez dans vos recherches?
Je suis d'accord avec vous, ça n'est pas du tout un passage facile. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'échecs qui ont été rapportés. On croyait savoir, mais il y a encore tout un talent particulier de l'enseignant, bien entendu, hein, qui n'est pas parfaitement compris. On sait qu'il y a ce qu'on appelle un effet maître, c'est-à-dire que l'une des variables les plus importantes qui détermine le succès des enfants, c'est quel maître ils ont en face d'eux. Et c'est ce talent particulier qu'on ne sait pas.
L'humain, on revient à l'humain là quand même.
Une part d'humain fondamentale dans cette affaire, évidemment, de charisme, de curiosité, etc. Mais il y a quand même des règles générales. Et qui peuvent s'enseigner. Et examiner comment un enseignant fait, je donne à la fin de mon livre un certain nombre de recettes. Enfin, peut-être pas de recettes, c'est le terme est un peu réducteur. Mais disons,
de pistes, d'ouverture.
Voilà. L'une d'entre elles, c'est ne sous-estimez pas les enfants que vous avez en face de vous.
Ne les sous-estimez pas.
C'est cette vision piagétienne d'un enfant qui part presque de zéro et d'une façon extrêmement lente va arriver par exemple à la logique seulement entre 7 et 10 ans, c'est faux. C'est juste faux et il faut absolument qu'on révise cette idée-là. L'enfant est beaucoup plus compétent qu'on ne le pensait il y a seulement quelques dizaines d'années et il faut vraiment lui fournir des matériaux qui respectent cette intelligence.
Une intelligence. Il faut que l'enseignant soit aussi intelligent que celui qu'il a en face de lui.
Moins qu'il ait une intelligence dans les matériels qu'il fournit à l'enfant. Je crois beaucoup au matériel en particulier pour les mathématiques, au matériel physique, des cubes, des objets de mesure, la ligne numérique qui peut être dessinée autour de la classe de 0 jusqu'à 1000, pourquoi pas. J'ai appris qu'on est obligé d'arrêter l'enseignement des nombres à 69. L'éducation nationale suggère qu'on s'arrête là, parce que 70, c'est vrai, c'est un peu plus compliqué. 70, 71, 72 en français. Mais enfin, les enfants...
Il faut aller voir du côté de nos amis belges.
De s'arrêter.
Hein. Quand on dit 70, c'est peut-être plus facile.
Essayons d'enrichir en permanence, bien entendu, pour les enfants en difficulté, le principal objectif de notre conseil scientifique de l'éducation nationale, puisque vous l'avez mentionné, c'est quand même d'arriver à ce que des enfants qui sont actuellement en situation d'échec, de difficulté liée à l'environnement social ou sociétal, puissent être rattrapés par l'école. Mais il y a aussi les enfants qui sont en avance et il faut qu'on arrive à leur donner des matériaux, des fiches, et donc une certaine personnalisation aussi de l'enseignement qui respecte leur intelligence.
À travers le jeu aussi, hein, qui respecte leur intelligence, j'ai envie de citer en guise de conclusion justement la phrase finale de votre ouvrage.
C'est un peu une pirouette. Hein.
C'est une pirouette, hein. C'est Francis Blanche que vous citez. Je vais même l'épeler parce qu'à la radio c'est pas évident. Il vaut mieux penser, P-E-N-S-E-R, hein. Il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Moi, ça me paraît une belle...
J'ai toujours été attiré par les contrepéteries, mais celle-ci est un petit peu profonde, effectivement. Elle dit que notre connaissance scientifique n'est pas neutre dans cette affaire. Je crois que l'éducation bénéficie d'un regard scientifique qui est capable de comprendre et en comprenant mieux, de progresser plus vite.
Pour penser le changement plutôt que changer le pansement, comme le disait Francis Blanche, je vous renvoie, chers amis auditeurs, à l'ouvrage de Stanislas Dehaene, paru aux éditions Odile Jacob, Apprendre, point d'exclamation, les talents du cerveau, le défi des machines. Demain, on continue à penser, à rêver et à partager les savoirs autour de la
la question « La science rend-elle heureux ?» Regard croisé de chercheurs et chercheuses sur ce qui fait le sel de leur vie. À réécouter juste pour l'inspiration, en cette saison de rediffusion estivale, nous vous rappelons que vous pouvez toujours nous podcaster sur l'appli RFI Pure Radio. Caroline Achowski au micro, Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Autour de la question, c'est tout pour aujourd'hui. Surtout, restez curieux et gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Sur RFI, c'est bientôt l'heure de votre prochain journal.